Chapitre 2 Les filles de la forêt. Pas fière du tout, je me suis présentée à la grille du palais royal, la valise à la main. J'étais persuadée que les sentinelles me chasseraient à coups de pique et que l'aventure s'arrêterait là. Mais, à ma grande surprise, les choses ne se sont pas passées de cette manière. Des soldats, enveloppés dans des armures brillantes, montaient la garde de part et d'autre de l'entrée. Ils ont crié « Qui va là ?» en agitant leurs armes, ce qui a produit un vacarme de casseroles malmenées. J'ai montré la valise en expliquant que c'était elle qui m'avait dit de venir. J'ai pensé « Ils vont me prendre pour une folle ». Mais non, ils avaient l'air d'avoir entendu parler de la mallette et de connaître ses pouvoirs. Ils se sont effacés pour me laisser entrer. J'ai commencé à remonter une allée interminable. De part et d'autre du chemin se dressaient des statues de lions et de dragons en marbre blanc. Certaines, très abîmées par les siècles. Tout au fond, on apercevait le palais. Un grand château aux tours tarabiscotées. Des oriflammes bleus et or claquaient au vent. Tout cela aurait pu être très joli. Hélas, le soleil se couchait. La nuit allait bientôt s'installer, et je dois avouer que dans la lumière rougeâtre du soir, le spectacle avait quelque chose d'inquiétant. De l'autre côté des grilles encerclant le parc s'étendait une forêt, épaisse, sombre. Les arbres y étaient si serrés qu'on aurait eu le plus grand mal à se faufiler entre les troncs. Il m'a semblé que des gémissements s'en échappaient. « Idiote, ai-je pensé, ne joue pas à te faire peur, c'est le vent dans les branches. » Et j'ai continué à marcher en essayant d'avoir l'air digne. Je sentais qu'on m'observait. Sans doute quelqu'un, embusqué derrière l'une des 1000 fenêtres de la façade, m'espionnait-il au moyen d'une lorgnette? Ça n'avait rien d'agréable, et j'ai fait un effort pour prendre l'expression décidée de la fille qui ne s'en laisse pas compter. En réalité, je me sentais toute petite et perdue au milieu de ce jardin immense et vide. Les gémissements provenant de la forêt me mettaient de plus en plus mal à l'aise. Alors que je me rapprochais du grand escalier de marbre rose, une adolescente d'une quinzaine d'années a surgi de derrière un massif de fleurs. Vêtue d'une longue robe verte, elle avait l'air d'une princesse, et j'ai cru une seconde qu'il s'agissait de la fameuse Amandine. J'étais embarrassée, car je ne sais pas faire la révérence, ni aucun de ces trucs pratiqués dans les châteaux. Elle m'a détrompée. « Non, non, » a-t-elle balbutié, « je m'appelle Flore. Je suis la demoiselle de compagnie de la princesse. Veux-tu me rendre un grand service ?» Elle semblait très angoissée. J'ai vu qu'elle tenait une grosse chaîne entre ses mains, une chaîne munie de bracelets d'acier et d'un cadenas. J'ai dit, « Oui, si ça peut vous aider, qu'est-ce que je dois faire ?» « M'attacher à la rampe de l'escalier d'honneur, » a balbutié la demoiselle. « Ensuite, tu garderas la clé dans ta poche et tu t'en iras loin, loin. Reviens me libérer demain matin quand il n'y aura plus de danger. » J'ai dit « Je n'y comprenais rien, mais Flore paraissait au comble de la panique. « Vite, » a-t-elle supplié, « la nuit va tomber. » D'habitude, c'est la princesse qui m'attache. Mais ce soir, je n'ai pas réussi à la trouver. Le château est si grand. Si tu acceptes de m'aider, je te donnerai cette belle broche. » Elle a désigné un camé d'ivoire et d'or, épinglé au bas de son décolleté. Un très beau bijou. J'ai posé la valise sur le sol, pris la chaîne et attaché Flore à la rampe de marbre de l'escalier. Quand les menottes ont claqué sur ses poignets, elle a poussé un soupir de soulagement. « Ah, tu me sauves la vie !» Je n'ai rien dit. Tout ça me paraissait un peu bizarre. Mais bon, j'y étais préparée. Je savais bien qu'en écoutant la valise, j'allais me mettre dans une histoire invraisemblable. Flore s'est assise sur une marche, les mains entravées, prisonnière des menottes. Elle regardait anxieusement du côté de la forêt. Elle avait complètement oublié mon existence. « Je vous laisse, » ai-je murmuré. « Essayez tout de même de passer une bonne nuit. » Elle ne m'a pas répondu. Je me suis avancée vers l'entrée du palais. Là encore, les serviteurs m'ont laissé passer. Je me suis retrouvée toute seule au milieu d'une galerie immense, tapissée de miroirs et de statues. La lueur du soleil couchant pénétrait par les 300 fenêtres perçant la façade, badigeonnant les objets d'une couleur sanglante du plus mauvais effet. Je n'ai pas eu le courage de crier « Y a quelqu'un ?» Tout était si majestueux. Je me sentais totalement godiche, mal habillée, mal coiffée, les chaussures pleines de poussière. L'horreur absolue. Comme il fallait bien faire quelque chose, j'ai remonté la galerie. À ce moment-là, une porte s'est ouverte et 20 jeunes filles se sont éparpillées au hasard des corridors sans me prêter la moindre attention. Elles étaient vêtues de longues robes brodées d'or et riaient de façon distinguée en cachant leurs jolies bouches derrière un éventail. Une seule d'entre elles portait un diadème orné de pierres précieuses. J'ai parié qu'il s'agissait de la princesse Amandine. Elle avait environ 14 ans. Elle avait l'air d'une poupée de porcelaine affreusement fragile. Tout était magnifique chez elle. Les cheveux, le nez, les yeux. Elle était trop, quoi. Être belle à ce point, ça devrait pas être permis. C'est décourageant pour les autres. Vous n'êtes pas de mon avis ? Je me suis avancée vers elle pour me présenter. Elle n'a pas paru surprise. « Ah oui, » a-t-elle fait d'un ton distrait, « tu es comme sur le portrait. »« Quel portrait ? » ai-je demandé. Alors elle a déplié son éventail pour me le montrer. Ma figure était peinte dessus, j'en suis restée bouche bée. « C'est un éventail magique, » a expliqué Amandine. « Un éventail horoscope. » Tous les matins, les prédictions de la journée s'y inscrivent sous forme de petits dessins qui s'effacent quand le jour s'achève. Ce matin, c'était ton visage. Comme il est peint en rose, ça signifie que ta venue sera bénéfique. S'il avait été peint en gris, ça aurait été mauvais signe et je t'aurais fait jeter dehors par les gardes. Je m'appelle Nouchka, ai-je déclaré. Ça, c'est pas écrit sur l'éventail. Elle m'agaçait un peu. Elle a ri. Elle riait divinement bien. On aurait pu enregistrer son rire sur CD et le mettre en vente. Ça aurait rapporté des fortunes. « Pourquoi voulais-tu me rencontrer ? » s'est-elle enquise en penchant gracieusement la tête. J'ai dû lui annoncer les prédictions de la valise. La menace, le complot, tout quoi. Elle a cessé de sourire. Une expression qui ressemblait à de la peur s'est installée sur sa jolie figure. Elle a regardé par-dessus son épaule pour s'assurer qu'on ne nous espionnait pas. J'ai eu dans l'idée que je ne lui apprenais rien. « Viens, » a-t-elle murmuré. « Ne restons pas ici, les murs ont des oreilles. » On ne peut jamais être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un de dissimulé derrière l'un de ces miroirs. Au loin, on entendait rire les autres demoiselles. Mais dans la galerie qui envahissait la nuit, l'atmosphère était plutôt inquiétante. Soudain, Amandine a tressailli et porté la main à sa gorge. « Mon Dieu » a-t-elle hoqueté. « Le soir tombe et j'ai oublié d'enchaîner Flore. » « Pas de panique, » ai-je grogné, « je m'en suis chargée. Elle est actuellement menottée à la rampe du grand escalier. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle y tenait tant. Vous allez peut-être me l'expliquer. » Mais Amandine ne m'écoutait pas. Courant vers l'une des hautes fenêtres, elle regarda dans le parc pour s'assurer que sa demoiselle de compagnie était bien enchaînée. Flore tirait sur ses menottes avec rage, comme si elle espérait s'en libérer. Sur son visage, la colère avait succédé à la peur. « Elle n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut, ai-je fait observer. Tout à l'heure, elle suppliait de l'enchaîner. J'y pige rien. » « C'est la faute de la nuit, » a chuchoté Amandine. « Durant le jour, ça va, mais dès que le soleil disparaît à l'horizon, elle est reprise par ses instincts. Une force qui la dépasse la pousse à courir vers la forêt de l'autre côté des grilles. Si elle y parvenait, je la perdrais. Et ça, je ne le veux à aucun prix. C'est mon unique amie. Nous avons été élevés ensemble. Hélas, comme toutes les filles du peuple des Sylves, elle est condamnée à se transformer. Voilà pourquoi je l'enchaîne au coucher du soleil. Ce soir, j'ai failli oublier. Ce cours de sourire n'en finissait pas. J'ai froncé les sourcils. L'explication de la princesse n'expliquait pas grand-chose, en vérité. Mais je n'osais pas insister. Au lieu de ça, j'ai demandé... C'est quoi un cours de sourire? Ça fait partie de la formation des jeunes filles de qualité, a-t-elle répondu. On y apprend à sourire en toutes circonstances. Il y a le sourire de cérémonie, le sourire de diplomatie, le sourire de funérailles, le sourire de guerre, le sourire de haine, le sourire qui dit oui, le sourire qui dit non. Il faut savoir maîtriser tout ça. Demain, j'ai cours de sanglots. On y enseigne à pleurer de mille manières, de façon à rester toujours jolie sans faire de grimaces ridicules. C'est tout un art. On peut se ridiculiser en pleurant n'importe comment. Une princesse ne peut pas se permettre d'être ridicule. J'ai fait « Ah !» J'étais un brin dépassé. « Après-demain, j'ai cours de ruban, » a-t-elle continué. « On nous apprend à nouer nos rubans de façon à ce qu'ils signifient toujours quelque chose. Un ruban noué de telle ou telle manière est un message adressé à ceux qui nous entourent. Il peut vouloir dire « J'ai envie d'être amoureuse » ou encore « Je suis triste ». Tu comprends ? C'est passionnant, ai-je dit par politesse. En réalité, ça me semblait affreusement ennuyeux. Je ne m'imaginais pas passant mon temps à nouer des rubans. Ensuite, pendant que nous gagnions l'étage supérieur, Amandine m'a parlé de ses cours d'éventail. Là aussi, il s'agissait de manier l'éventail de telle ou telle façon. En l'ouvrant, en le fermant, en l'agitant, on pouvait transmettre des messages muets, des messages codés. Rien qu'à l'écouter, j'en avais la migraine. Pourtant, au fond de moi, une petite voix me soufflait que si Amandine se montrait si bavarde, si coquette, c'était pour cacher sa peur. Nous sommes arrivés au premier étage, aussi désert que le rez-de-chaussée. Ce palais me faisait une drôle d'impression. Il y régnait une atmosphère bizarre. La princesse m'a poussée dans une salle assez vaste pour y faire galoper un cheval. « Ma chambre » a-t-elle annoncé. Puis elle a couru à la fenêtre pour observer Flore qui continuait à secouer la chaîne bouclée autour de la rampe. À force de s'agiter, elle avait les poignets en sang. « Pourquoi fait-elle ça » ai-je insisté, lassée de tant de mystères. « Je t'expliquerai demain, » a chuchoté Amandine. « À présent, il faut dormir. »« Tu trouveras un divan dans ce cabinet. C'est là que dorment d'ordinaire mes dames de parage. » J'étais de sale poil et j'avais mal aux pieds. J'ai dit « Bonsoir », puis j'ai poussé la porte du fameux cabinet. Il s'agissait d'un salon tout doré, ruisselant de moulures, d'angelots et de candélabres. Un sofa rouge vif en occupait le centre. J'ai envoyé valdinguer mes godasses et je me suis couchée. J'avais faim. j'aurais pu avaler 2 tonnes de frites arrosées de ketchup. Mais comme la princesse n'avait pas l'air disposée à se mettre à table, j'ai décidé de dormir. De son côté, elle a sonné ses chambrières. 6 servantes ont accouru. Elles ont commencé à lui enlever ses vêtements, ses petits souliers, tout ça avec beaucoup de précaution, comme si on leur demandait de manipuler une poupée de porcelaine susceptible de se briser au premier faux mouvement. Je n'en revenais pas. Amandine se laissait faire, les yeux mi-clos. Incroyable! Sous sa robe d'apparat, elle portait 36 jupons. Ça représentait assez de tissu pour tailler les voiles d'un trois-mâts. Je me suis endormie avant la fin de la cérémonie. Au cours de la nuit, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'étais assoupie, bien sûr, mais j'ai vu distinctement une tête sortir du mur pour m'observer, les yeux plissés par la méfiance. C'était une tête de petit bonhomme chauve à l'expression méchante. Je n'ai pas bougé. Au bout d'un moment, la tête est rentrée dans le mur pour ressortir plus loin dans la chambre d'Amandine. J'ai pensé un passe-muraille. J'en avais entendu parler, mais je n'en avais jamais vu. Pourquoi nous espionnait-il? En entendant Amandine murmurer des paroles indistinctes, j'ai compris qu'elle avait l'habitude de parler pendant son sommeil. Beaucoup de gens le font. Le passe-muraille essayait manifestement de comprendre ce qu'elle disait. « Je ne m'étais pas trompée. Nous étions bien en présence d'un espion. » Pour rigoler, je me suis mise, moi aussi, à chuchoter d'une voix plaintive. Je disais des trucs sans queue ni tête comme « Agura grobis »,« Rastafa tambourin »,« Nyctalopos zabapoum ». Aussitôt, la tête a crevé le mur tout près du divan pour mieux saisir mes paroles. Sans doute croyait-elle que je parlais dans une langue étrangère. Ça m'a amusé 5 minutes, puis j'en ai eu assez. Le passe-muraille a disparu. Amandine m'a réveillée à l'aube. Elle était enveloppée dans une robe de chambre en fourrure. « Viens, » a-t-elle ordonné, « sortons du château avant que mes servantes ne se présentent pour la toilette du matin. Je veux te faire voir quelque chose. » Je l'ai suivie. Le parc était noyé de brume. Les statues avaient l'air de fantômes en maraude. Amandine s'est dirigée vers la grille interdisant l'accès de la forêt. Encore une fois, il m'a semblé percevoir un concert de gémissements. Amandine a tiré de sa poche une clé dont elle s'est servie pour déverrouiller une porte métallique à la serrure compliquée. De l'autre côté, s'étendait une végétation serrée, hérissée de buissons épineux. « Regarde bien les arbres !» m'a chuchoté la princesse. « Ne vois-tu rien de particulier ?» J'ai sursauté. Sur chaque tronc, on avait sculpté une figure humaine à l'expression attristée. Les visages étaient tous différents les uns des autres. Tout à coup, l'un d'eux a ouvert la bouche et s'est mis à gémir. Des larmes de sève ont coulé de ses yeux. « Voilà les sylves dont je te parlais hier !» a murmuré Amandine. Jusqu'à 14 ans, ils conservent une apparence humaine et vivent en notre compagnie. C'est alors qu'une force mystérieuse les pousse à pénétrer dans la forêt. Là, ils creusent un trou dans le sol, y enfouissent leurs pieds nus et se changent en arbres. Quoi ? Oui, c'est ainsi. De cette façon, ils peuvent vivre 2 ou 3 siècles, bien davantage que les humains, mais ils sont condamnés à demeurer enracinés à la même place pour toujours. Alors, ils se souviennent de leur ancienne vie, celle qu'ils menaient au milieu des pauvres mortels, et ils se lamentent sans fin, car la vie d'un arbre est affreusement ennuyeuse. j'ai regardé autour de moi avec plus d'attention. J'ai constaté qu'il y avait des visages d'hommes, de femmes et de jeunes gens des deux sexes. Amandine s'est avancée sous les frondaisons. Elle allait d'un arbre à l'autre, caressant tendrement les figures sculptées dans l'écorce. Morgane, Laura, Anne, Emma, énumérait-elle. Comme j'écarquillais les yeux, elle a daigné expliquer. Mes anciennes demoiselles de compagnie, de grandes amies, nous nous sommes tant amusées ensemble. Mais la malédiction les a rattrapées et, une nuit, elles se sont échappées du palais pour venir ici. C'était plus fort qu'elles. Au matin, elles s'étaient changées en arbre. Je n'avais plus qu'à les pleurer. Elles me manquent. Oh, elles me manquent tellement. Je vois, ai-je fait. Flore est une sylve, elle aussi. Voilà pourquoi vous l'enchaînez. La tradition exige que les demoiselles de compagnie des princesses du sang royal, soient obligatoirement des sylves, a soufflé Amandine. J'ai vu qu'elle était au bord des larmes. Pourquoi, ai-je demandé, c'est cruel. Cela vous condamne à perdre toutes vos amies d'enfance. Oui, je pense que c'est justement ce que souhaite le Premier ministre. Il tient à ce que les princesses soient seules, sans appui, vulnérables. Quand on a des amis, on est tout de suite plus forte. Et cela, il veut l'éviter. Il lui plaît que je reste solitaire, isolée. Pour l'heure, j'ai réussi à tricher en enchaînant Flore. Mais cela ne durera pas éternellement. Je sais qu'elle finira par me fausser compagnie, même si son désir est de rester avec moi. L'instinct sera plus fort que tout. Elle franchira la grille, elle aussi, comme les autres. J'ai profité de ce que nous étions loin du palais pour lui demander. « Vous avez donc des ennemis ?»« Oui, a-t-elle soupiré. Le Premier ministre me déteste. Tu le rencontreras fatalement au détour d'un couloir. » Il se nomme Zafar de Camillios. Il porte un masque de porcelaine. Pourquoi ? On dit qu'il est si horrible que la seule vision de sa figure suffirait à faire mourir de peur une escouade de chevaliers aguerris, endurcis par la guerre. Et c'est vrai ? Je l'ignore, mais je ne me risquerai pas les pieds lorsqu'il l'ôte pour se débarbouiller. C'est un homme méchant, cruel, à qui mon père accorde, hélas, toute sa confiance. Cette nuit, ai-je ajouté, j'ai surpris quelque chose de curieux. Une tête qui sortait des murs pour nous espionner. De quoi s'agit-il ? Amandine haussa les épaules. On les surnomme les petits bonhommes. Ce sont des passe-murailles au service de Zafar. Des espions, comme tu l'as deviné. Le soir, les cuisiniers de la bouche royale ont ordre de mêler à la nourriture une drogue qui contraint les personnes à révéler leurs pensées les plus secrètes pendant leur sommeil. C'est un produit très efficace. Si on l'absorbe, on ne peut pas s'empêcher de parler en rêve et de dire tout ce qu'on cache au fond de son âme. La mission des bonhommes consiste à écouter ce que bredouillent les dormeurs et à le rapporter à leur maître. Zafar. Grâce à ce subterfuge, il lui est possible d'étouffer les complots dans l'œuf. Il est malin. Il sait qu'on le déteste. À trois reprises déjà, des nobles de la cour ont projeté de l'assassiner. Ils n'en ont pas eu le temps. La drogue les a forcés à parler pendant leur sommeil. Au matin, les gardes sont venus les arrêter. Voilà pourquoi je me passe de dîner. Je préfère me coucher le ventre vide. Pour ne pas décevoir les passe-murailles, je fais semblant de parler en dormant. Je bredouille des choses sans intérêt. Zafar me prend pour une coquette, une idiote sans cervelle ayant la passion des rubans. Ça me convient tout à fait. Cela me permet de gagner du temps. Si tu veux rester ici, tu devras te montrer prudente. n'absorbe aucune nourriture le soir, pas même un verre d'eau. À présent, retournons dans le parc. Notre absence pourrait paraître suspecte. Nous avons une nouvelle fois franchi la grille dont Amandine a soigneusement verrouillé la porte. Le jour étant levé, on pouvait désormais libérer Flore. Nous l'avons trouvée effondrée sur les marches, épuisée d'avoir lutté toute la nuit contre les menottes. Elle avait les poignets en sang. Je l'ai débarrassée de ses liens. Elle a levé sur nous ses yeux battus. « C'est de plus en plus fort, votre Altesse, » a-t-elle murmuré en regardant la princesse. « Je ne serai plus capable de résister bien longtemps encore. L'appel de la forêt devient trop puissant. Cette nuit, j'ai bien cru que j'allais me ronger les mains pour me libérer, comme les renards pris au piège. Je suis désolée de vous abandonner. Une nuit que je devine proche, j'irai rejoindre les miens derrière la grille. Telle est la loi des Sylves. Me le pardonnerez-vous ? » La princesse l'aida à se relever et la serra dans ses bras. Elles restèrent ainsi une minute à pleurer chacune sur l'épaule de l'autre. Puis Amandine recula. « Je dois regagner ma chambre, » souffla-t-elle. « Les servantes vont se présenter pour la cérémonie du lever. Normalement, je n'ai pas le droit d'enfiler une pantoufle hors de leur présence. » C'est encore là une idée du Premier ministre pour me contrôler en permanence. Alors qu'elle tournait les talons, elle se figea et revint vers moi. « Sois très prudente, » chuchota-t-elle en me touchant l'épaule. « Je crois que Zafar ne t'aime pas beaucoup. Tu veux voir ce que m'a prédit ce matin mon éventail horoscope ?» D'un coup de poignet, elle déploya l'éventail sous mes yeux. Sur la soie, mon visage était peint avec une grande minutie. J'avais les yeux fermés et une tache de sang sur le front. En fait, j'avais l'air tout à fait morte.